voix nue. Cette semaine, Frédéric Saïs rencontre Claude Angéli. Ce soir, la naïveté était ma qualité première.
Nous allons vous parler d'une plume et d'un volatile. Le volatile, c'est le canard enchaîné, vénérable institution de la presse, qui est né pendant la Première Guerre mondiale pour combattre la censure officielle. La plume, c'est vous, Claude Angéli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous totalisez près d'un demi-siècle au canard enchaîné, dont trois décennies comme rédacteur en chef du journal. Vous écrivez d'ailleurs toujours dans ses colonnes, chaque semaine, un article sur les coulisses de la diplomatie et de la défense. Alors, remontez avec vous le fil de votre vie, c'est aussi explorer l'histoire de la presse, d'un journalisme qui se dresse face au pouvoir, mais qui doute aussi parfois de sa puissance. C'est également explorer la face sombre de la République, dont l'affaire des micros cachés dans les locaux du canard enchaîné ne sont qu'un exemple. Vous nous recevez d'ailleurs toute cette semaine, Claude Angéli, dans les bureaux du journal. Nous sommes à quelques centaines de mètres de l'Élysée, dans le centre de Paris. Vous nous raconterez aussi comment votre engagement politique en tant que militant du Parti communiste a précédé votre engagement de journaliste. Mais d'abord, commençons par votre enfance. Claude Angéli, vous êtes né moins de 10 ans avant la Seconde Guerre mondiale, en 1931. Dans quel type de famille ?
Dans une famille, mon père était professeur d'éducation physique. Ma mère était jeune, elle avait 17 ans. Ma mère avait 17 ans quand je suis né, ma grand-mère avait 17 ans quand ma mère est née. Donc j'avais une grand-mère de 34 ans, italienne, un peu forte. Ça m'a toujours surpris un peu le mot grand-mère, parce que les autres grand-mères étaient beaucoup plus âgées. Donc la famille pauvre, mon père sortait de l'armée, il a été nommé à Monaco, au lycée de Monaco, et ma mère est partie, elle avait deux robes et mon père un costume. Bon, comme il était mieux payé là-bas, ils ont commencé à pouvoir vivre un peu mieux. Et après, j'ai passé mon enfance dans une ville qui était Monaco, et où on vivait dans la rue, dans les jardins, je ne savais pas ce que c'était un manteau. J'ai appris à nager dans le port de Monaco, où il y avait une petite plage avec des galets. Voilà l'enfance qui était agréable.
Vous avez 9 ans quand la Deuxième Guerre mondiale se déclenche. Quel souvenir vous en gardez ?
Mon père a une idée géniale. D'abord, il se rengage, alors qu'il avait fait Verdun. Il se rengage dans l'armée et il dit « il faut pas rester à Monaco parce que les Italiens sont pas loin, il faut aller à Paris, chez la grand-mère ». On est allé à Paris et il a fallu vite en déguerpir parce que les Allemands s'approchaient. Et avec ma mère, on a pris un train, des derniers trains qui partaient pour le sud-ouest. On est arrivé à Salis-de-Béarn et les Allemands nous ont rattrapés. Et moi qui avais eu une éducation... La France avait la plus belle armée du monde. Les colonies françaises, c'était les grandes taches roses sur les cartes de l'Afrique. Et j'ai vu arriver les colonnes allemandes, impeccables, bottes cirées, tout ça et tout. J'ai entendu le discours de Pétain sur la petite place de Salis-de-Béarn. Il y avait une fenêtre ouverte. Tout le monde était silencieux. C'était dramatique. Puis ma mère est allée à la commandantour, où un jeune officier ou sous-officier a claqué les talons, pour avoir un Ausweis, une autorisation, pour retourner à Monaco. On est retourné à Monaco en attendant mon père. On ne savait pas où il était, il n'était pas prisonnier. Ses officiers avaient foutu le camp en voiture, et lui était resté avec ses hommes qui étaient des tirailleurs, sénégalais ou algériens, je ne sais plus. Et puis on a recommencé à vivre. Ensuite, mon père a été nommé à Antibes. Alors là c'est amusant parce que le lundi matin, on chantait « Maréchal, nous voilà », puis la Marseillaise avec le drapeau. Et bien entendu, selon les parents, les gosses braillaient plus un chant qu'un autre. Mais c'était... Et là, j'ai vu arriver les Italiens. Là, c'était aussi un spectacle assez extraordinaire. En 1942, quand les Alliés ont débarqué au Maroc et en Algérie, les Allemands ont envahi la zone non occupée. Vague protestation de Pétain pour la forme. Et de la fenêtre du boulevard Wilson, j'ai vu arriver les bérets verts italiens et Piume Verte avec des vélos où il n'y avait pas de frein. Et il freinait avec le pied sur les pneus. Alors, bien entendu, c'était des rigolos pour les Allemands, qui les ont vite écartés et qui ont mis quelques petites fortifications sur les plages. Puis, on est remonté à Paris, où mon père a été nommé à Paris. Voilà.
Vous dites votre surprise et celle de la France, en un sens, quand cette invasion s'est faite aussi rapidement. On a parlé d'une débandade générale de l'armée française. Vous avez été surpris parce que vous avez été élevé dans un esprit, dans une culture patriote, ou c'est parce que c'est ce qu'on vous avait appris à l'école? Ça vient de la famille ou de l'école?
La famille et puis l'école, bon. Mon père et ma mère s'engueulaient un petit peu parce qu'elle était italienne et lui corse. Donc rien n'était simple. Mais disons, c'était l'esprit de patriotisme, quoi. Comme un gosse peut être patriote, mais on comprenait pas bien tout ce qui se passait, mais on n'a pas compris qui est cette divine surprise, que les Allemands puissent entrer comme ça, si facilement, et puis se présenter sans problème, comme ça, tranquillement. Au départ, c'était une présence très brève, puisque j'étais ensuite dans la zone non occupée, puis à Paris, alors, on voyait les Allemands partout, et je me souviens, place de la Concorde, sur ce qui est devenu ensuite le musée de la Marine, le ministère de la Marine, un grand drapeau à croix gammée, ça faisait mal. On n'imagine pas une aussi belle place ainsi salie. J'ai pas de haine contre les Allemands, mais enfin là c'était un peu particulier.
Vous le disiez, votre père a fait la Première Guerre mondiale, oui. Il a ensuite été engagé volontaire dans la Deuxième. Est-ce que c'est cela qui vous a donné cette curiosité pour la chose militaire, ensuite ?
Non. Non, j'étais pas curieux du tout. J'étais un gosse qui traînait. Je travaillais pas bien. Je lisais. Je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Je regardais un petit peu les événements, puis est arrivée la libération. Mais je me souviens toujours, place de la Concorde, un jour, c'était des civils, mais je crois que c'était des miliciens qui défilaient. Et puis, il y avait des gens qui, silencieux, regardaient. Et un de leurs gradés a pris sa canne et a fait sauter un chapeau d'un des spectateurs. Et là, c'était glaçant. Là, ça foutait la trouille. Bah, c'était des collabos, quoi. Hein. C'était quand même pas des... Ils avaient des gueules pas sympathiques et... Dans la milice, il y avait beaucoup de voyous, il n'y avait pas que des patriotes.
Vous avez réfléchi à l'influence qu'a eu ensuite sur vous cette période?
Oui, parce que quand on a vu arriver les Américains, on était fous de joie, quoi. Alors on est allé les voir, ils nous donnaient des choses, et puis après ils ont compris qu'on en revendait, et ils nous ont voulu les vendre. C'est logique.
C'était quoi, des confiseries, des friandises?
Oui, puis du savon qui sentait bon, enfin, c'était affreux sans doute. J'avais un blouson américain, j'avais des pantalons américains, tout ça. Et même à l'époque, on était sollicité sur les bords de Marne par un type qui avait des faux billets, qui avait cours à l'époque. Il voulait nous transformer en dealers d'une certaine façon. On n'a pas marché quand même, on était une petite bande, mais... On n'avait pas envie, peut-être, de faire tout ça, quoi. Moi, j'avais 13 ans quand ils sont arrivés. Et je n'avais pas, disons, la culture nécessaire pour comprendre la situation.
Donc, Claude Angély, vous passez une bonne partie de votre enfance dans ce département qui s'appelait la Seine, à l'époque, qui s'appelle le Val-de-Marne. Aujourd'hui, vous n'étiez un enfant pas spécialement curieux, vous dites, c'est bizarre pour un futur journaliste.
Oui, non. Mais je vous dis, j'étais... à la fois paresseux et pas curieux et envie quand même de me balader puisque m'était venue l'idée de partir en Afrique. C'était peut-être une lecture, j'en sais rien, les colonies. Tout ça, c'est quand je regarde ça, je pense que j'étais autre à l'époque. Ben, j'étais quelqu'un de différent et quelqu'un qui n'était pas mûr, hein. Mais qu'on n'avait pas aidé à mûrir ni mes professeurs ni mes parents.
Vos parents ne vous avaient pas transmis un goût de l'ouverture? Vous étiez renfermé comme enfant?
Non, je n'étais pas renfermé. Moi, j'allais toujours avec des copains dans les rues, à Monaco. Alors, les rues de Monaco, c'est pas les banlieues, hein. Mais on faisait de la patinette, on faisait du patin à roulettes, on allait se baigner. C'est la belle vie. J'ai jamais connu un manteau. En même temps, tout était facile. Il n'y a que la guerre qui est venue te troubler. Quoi.
En 1944, il vous arrive une aventure qui va vous marquer.
Oui. Avant que les Américains n'arrivent, et que les Allemands foutent le camp, il n'y avait plus rien à manger, plus grand-chose à manger. Avec des copains, on décide de prendre des vélos et d'aller en Seine-et-Marne chercher des légumes. Alors on part et on est un peu fatigué parce que les vélos sont lourds et tout. Et on trouve un étang. Ah, un étang, il y a une barque. Et bien on se met dans la barque et on va se balader un peu en barque. Et tout d'un coup arrivent des avions américains. En rase-motte, mes copains plongent dans le fond de la barque, ventre sur le fond de la barque, et moi, je regarde. Et je vois passer l'avion qui va se mettre à mitrailler, non pas nous, mais le petit train qui livre les légumes le long de la route nationale. Truc complètement fou. Ces Américains, on avait dû lui dire qu'il fallait bombarder les trains, ou mitrailler les trains. Il a vu un petit train. Bon, il a tué personne. Le gars était un petit peu blessé, le conducteur de la machine. Et c'est une voie ferrée qui était 40 centimètres de large, vous voyez. Les méthodes américaines étaient un peu brutales à l'époque, vous savez. Bombarder beaucoup. Et ils pensaient que c'était la façon de libérer le pays. Mais enfin, on les remercie quand même. Et on a rapporté des légumes pour manger.
L'adolescence, au sortir de la guerre, vous êtes toujours ce cancre que vous
viviez. Oui, je foutais plus rien. Je foutais plus rien, je pensais qu'il faudrait travailler pour gagner un peu d'argent. Mais mon père et ma mère se sont séparés, je vivais avec mon père. Et est arrivée la période où il fallait prévoir le régiment. À l'époque, j'ai eu la chance de ne faire que 18 mois, de ne pas être rappelé en Algérie, et d'être dans une unité où on pratiquait le sport, volleyball, basket, il y avait même un ou deux boxeurs, et un colonel qui avait gardé la voiture qu'il avait utilisée pendant la campagne d'Italie. Et il était très, très ouvert. Mais on était déjà un peu politisé, c'est-à-dire hostile aux guerres coloniales, tout ça et tout. Et un jour, c'est moi qui m'occupais un peu des questions de l'administration de notre équipe, là. Le colonel m'a convoqué. Je suis arrivé, mes respects, mon colonel et tout. Il m'a dit, Angélie, si les discussions politiques continuent dans les chambrées, je vous envoie tous en Allemagne. La terreur d'aller en Allemagne, alors qu'on était très bien à Paris. L'Allemagne, c'était le drame. Les forces d'occupation, là-bas, tout ça, on ne voulait pas être. Alors je suis rentré, puis j'ai dit au gars, écoutez, il faudra quand même parler à voix basse et tout, parce que quelqu'un nous avait dénoncé, c'est évident. On était très branchés, politiques, opposés aux guerres coloniales. Puis on a eu la chance d'être champion de France militaire, de volleyball. Il y avait 4 internationaux dans notre équipe, et moi j'ai appris à jouer avec eux. Puis quand on a été champion de France militaire, l'armée nous a fait un cadeau. On a pu aller aux Jeux Olympiques en spectateur à Helsinki. C'était formidable. J'ai pas tiré un coup de feu à l'armée.
Vous n'avez pas eu le baccalauréat. Est-ce que ça a été un regret après coup?
Non, c'était pas un regret. Avant le régiment, j'avais voulu partir en Afrique. J'avais une envie de voyager, j'avais une envie de faire quelque chose. Mais j'étais pas particulièrement paresseux, mais j'étais quand même un peu à côté de la plaque, je veux dire. Ça n'est qu'après le service militaire que j'ai commencé à vouloir changer un peu.
Vous ne vous imaginiez en aucun cas journaliste?
Non. Je trouvais ça bien comme métier. Avec l'équipe de volleyball, on est allé jouer au Maroc, on est allé jouer en Algérie. Au Maroc, un Français nous a fait visiter les bidonvilles. Visiblement, il voulait nous faire notre éducation. On a assez bien compris quelle était la particularité du colonialisme français, quoi. Qui n'est pas l'un des pires. J'en ai connu d'autres, le colonialisme belge, le colonialisme britannique. Eh bien, souvent, les Français étaient un petit peu plus conciliants. Mais après le régiment, nous sommes partis en moto, en Norvège et en Suède, pour se balader et travailler. On a travaillé dans une ferme une journée. Le soir, alors qu'on était sportifs, tout ça et tout, on était morts. On a décidé de partir pour Oslo et de laver la vaisselle. On gagnait plus à laver la vaisselle dans les restaurants. Après, on est allé se balader à Bucarest parce qu'il y avait un festival de la jeunesse qui était organisé par les communistes, tout ça. On n'était pas communistes à l'époque. Hein. Mais toujours, on faisait notre éducation comme ça. Puis on est rentré à Paris et là, on s'est dit, il faut travailler. N'importe quoi. Hein. Qui se présentait. Et je me suis trouvé commis de chantier en bâtiment, c'est-à-dire, je livrais les ouvriers avec la camionnette. L'éducation politique, toujours un peu, qui progressait, quoi.
Elle va progresser jusqu'à ce que vous vous rapprochiez du Parti communiste ?
Oui, c'est complètement extravagant. J'ai lu un livre, Le zéro et l'infini, d'Arthur Kessler, qui est un livre excellent sur l'Union soviétique, Staline, le Politburo, tout, qui est un livre considéré comme la réalité. Épouvantable. Les trois quarts du comité central sont fusillés, enfin tout. Mais j'ai toujours pensé que le Parti communiste français serait pas pareil. La naïveté était ma qualité première, si vous voulez. Et j'ai adhéré au Parti communiste parce que je pensais qu'il serait différent, que les Français quand même n'étaient pas aussi abrutis que les Soviétiques qui avaient toléré un tel régime, qu'il n'y aurait pas de camp, tout ça et tout. On était complètement à côté de la plaque. Et puis, j'avais rencontré quand même des communistes qui étaient extrêmement généreux. Des gens qui se dévouaient pour les autres. Des syndicalistes ou des choses comme ça. Donc ça fait passer un peu la pilule. Et donc j'ai commencé à militer et à voter. La première fois que j'ai voté, c'était en 1956. Le slogan du Parti communiste, c'était « Pour que ça change ». C'est un slogan merveilleux. Hein. Et les résultats, c'était que 25 et quelques pourcents votaient communistes. Et je marchais dans la rue, je disais « C'est formidable, 1 sur 4 ». Après, il y a eu les déceptions parce que, bien entendu, ça ne pouvait pas marcher comme ça, ça ne changeait pas. Et puis, on m'a proposé, très vite, d'entrer aux jeunesses communistes et d'être permanent. Et là, j'ai découvert un petit peu que le roi était nu. Et j'ai mis quand même 2-3 ans.
Hein. Oui, parce qu'il y a eu tout de même l'insurrection de Budapest. Ça ne vous a pas fait douter ?
Oui. Non, mais j'avais été à Budapest sur un match, d'ailleurs. J'avais connu des gens qui m'ont écrit et tout. Et puis là, c'est pareil. J'ai pensé que c'était une bavure. C'était le domaine soviétique. Et j'ai des tas de regrets sur mon attitude à ce moment-là. Mais je pensais toujours que le Parti communiste, avec Aragon, avec Joliot-Curie, avec Picasso, même avec Thorez, ça serait mieux. Vous voyez la naïveté jusqu'où elle allait. Et quand le Parti communiste a commis toute une série d'erreurs dont on s'est aperçu, on a compris que ça n'allait pas. Quand en 58, De Gaulle est revenu, et que le Parti communiste a dit « De Gaulle c'est la guerre, De Gaulle c'est la misère, De Gaulle c'est le fascisme », bon, on n'y croyait pas. D'autant plus que Thorez, après, a dit « Oui, il y a eu des exagérations et tout ». Il faisait son autocritique sur le dos des autres, pour ainsi dire. Et surtout, il y a eu la période où De Gaulle, grâce à des conversations avec certains camarades, autres, ou responsables, on a compris que le père De Gaulle, c'était pas du tout ce qu'on croyait, qu'il voulait se dégager de l'Algérie. Quand De Gaulle a annoncé qu'on allait voter pour l'autodétermination en Algérie, l'humanité a dit « ça c'est un leurre, c'est... » Le journal des jeunesses communistes auquel je collaborais, je commençais à écrire un petit peu, dit la même chose. Puis tout d'un coup, Khrouchtchev a dit le contraire. Il a approuvé De Gaulle. Et donc, l'humanité, le parti, et nous, il a fallu dire le contraire. Bon, alors là, je suis plus naïf. Et on est quelques-uns, aux jeunesses communistes, chez les étudiants communistes, à dire ça va pas. La naïveté, ça peut durer. Il faut pas que ça dure trop longtemps. Et donc, on est devenu dissident sans que le mot à l'époque soit prononcé. On se réunissait au Procope, on allait discuter, on croyait que les communistes italiens c'était les meilleurs parce qu'eux ils étaient très ouverts, plus intellectuels, moins staliniens. Enfin là, encore un peu une naïveté, mais c'est vrai qu'ils étaient différents. D'ailleurs, le courant des étudiants communistes qui étaient en rupture avec le parti par la suite, ils étaient surnommés les Italiens. Voilà. Et nous, c'était pareil. Nous, c'était pareil. D'ailleurs, tous ceux qui étaient permanents avec moi, à 90%, ils ont quitté le parti. Il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui ont tiré le rideau, il y en a qui n'ont plus fait du tout de politique. Un désastre.
Là, dans ce début des années 60 ?
Oui. C'est ce que Antoine Vitesse a appelé le déclin ridicule du parti. La formule est extrêmement juste, parce que c'est un déclin politique, culturel, épouvantable. Ce qui fait en gros que le Parti communiste, qui tenait des mairies, qui tenait des syndicats, qui s'occupait d'aider les gens et tout, à partir d'un moment, ça n'était plus grand-chose. Vous pouvez plus croire au parti, vous pouvez plus croire à une direction qui déconne à ce point, quoi. Qui, en plus, lorsqu'il y avait des attentats contre De Gaulle avant le petit Clamart, disait que c'était de la foutaise. Alors que nous, on y croyait quand même. En plus, on lisait Le Monde, tout était réel. Et le parti continuait dans cette idée. L'OAS, c'est une fabrication pour empêcher le peuple de s'exprimer. Enfin, des trucs comme ça. J'ai perdu ma naïveté, ou mon pucelage, si vous voulez.
Pour autant, vous aviez quel regard, par exemple, sur les socialistes à l'époque, la SFIO ?
Moi, je pensais qu'il fallait que les communistes et les socialistes se mettent ensemble. C'est banal. Mais là encore, je n'avais pas fait mon éducation totale. J'ai lu tous les livres de Georgette Elger sur la 4e République, ce qui m'a appris à connaître l'histoire de mon pays que je ne connaissais pas bien. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai fouillé tous les livres d'histoire. Je ne les ai pas lus, je les ai fouillés.
Sur le Parti communiste, il y a une citation d'Althusser à laquelle vous avez pensé souvent.
Oui, la citation d'Althusser, oui, elle est parue dans Le Monde. C'était lorsqu'on examine, je la résume, lorsqu'on examine la politique du Parti communiste, il faut faire entrer dans l'équation la médiocrité de ses dirigeants. Et malheureusement, tout à fait tragique et tout à fait vrai. Non pas qu'il n'y ait pas eu des gens intelligents, mais même les gens intelligents se mettaient à être disciplinés. C'est ce qui est dramatique.
Vous sortez donc, Claude Angéli, progressivement de cette naïveté, comme vous l'appelez. Il y a une date importante, 1964.
Oui, d'abord, comme ils avaient bien compris que ça grenouillait un peu dans les organisations de jeunesse du Parti communiste, ils m'ont proposé, comme je m'étais bien débrouillé des fois sur le plan commercial pour organiser des fêtes du Parti, ils m'ont proposé d'entrer dans le secteur commercial du Parti communiste, où on était mieux payé. Ça ne m'intéressait pas du tout. Là, je vais vous raconter une histoire. C'est moi qui ai réintégré Coca-Cola dans les fêtes du Parti communiste. Un jour, je suis convoqué par la direction des jeunesses communistes et on me dit, Claude, il faudrait que tu... Pour les fêtes prochaines qu'on va organiser, il faut qu'il n'y ait pas seulement Fanta, tout ça, la Nisette Ricard et tout. Il faudrait Coca-Cola. Moi, je dis, mais Coca-Cola, avec tout ce que le Parti communiste a dit après la libération, il dit, oui, il faudrait peut-être que tu retournes à l'Humanité, voir les vieilles collections d'Humanité, parce que ça a été épouvantable. Je suis allé à l'Humanité, regarder les vieilles collections. Ça rendait impuissant, ça trouvait les chaussures, je ne sais plus ce que ça donnait encore comme maladie, mais c'était incroyable. Alors qu'est-ce que je fais ? Je prends le téléphone... Et j'appelle Coca-Cola, je demande le responsable des services de fête. On me passe un monsieur qui s'appelle Monsieur Héron de Villefosse. Et il me dit oui, vas-y, je suis des jeunesses communistes et on voudrait que vous participiez à la prochaine fête des jeunesses communistes qui va se tenir en banlieue, je ne sais plus où. Il y a un blanc. Il me dit bon, ben vous pouvez le dire quand ? Ben, j'ai dit, quand vous voulez, ben, venez tout de suite. J'y vais. Il me dit, mais vous avez l'autorisation ? Je lui dis, vous n'en faites pas. On peut. Et alors, il me raconte un peu sa vie. Un peu anard. Puis, il avait fallu se ranger, donc il était rentré chez Coca-Cola. Puis un jour, il accompagnait un camion où il y avait un livreur de Coca-Cola, puis ils avaient toutes les bouteilles. Là. Et il passe sur les quais de Gennevilliers. Et il voit tout d'un coup une manifestation avec des pancartes et tout. Et les gens, quand ils voient Coca-Cola, ils font sur... Ils ont sauté du camion, ils ont foutu le camp, le camion et le Coca-Cola finit dans le canal. Et il m'a dit, la campagne du Parti communiste contre Coca-Cola a fait que la France est le pays où on vend le moins de Coca-Cola. Donc on a fait notre fête des jeunesses communistes avec Coca-Cola. Il y a des vieux militants qui venaient quand même à cette fête, qui nous ont un peu engueulés. Et à la fête de l'humanité suivante, il y avait Coca-Cola.
La boisson impérialiste.
Et c'est moi qui ai été chargé de faire les premiers pas.
Alors, ce n'est pas à cause de ça que vous avez été exclu.
Non, t'es exclu parce qu'ils ont compris que on parlait, on disait des choses qui n'étaient pas dans la ligne et tout. On voulait me mettre dans les circuits commerciaux, j'ai pas voulu. Alors on m'a dit, t'es pas dans la ligne, alors tu t'en vas. J'ai eu des épisodes et puis je suis parti et j'ai cherché du boulot.
Vous avez fait vos toutes premières armes dans le journalisme, dans le giron du Parti communiste, dans les revues de jeunesse, hein, c'est ça ?
Dans l'hebdomadaire de la jeunesse communiste, y compris en y racontant ce que j'ai vécu à Charonne. Le massacre par les policiers de Papon, de 8 personnes, et la 9e qui est morte par la suite. Et j'étais dans le métro, je suis rentré au dernier moment dans le métro, tout le monde est tombé derrière. Ça a été un des épisodes de ma vie les plus extraordinaires, parce que, j'en étais sorti, et j'ai su très vite qu'il y avait des morts, et parce que, au Canard Enchaîné, des années après, on a eu Papon. La manifestation de Charonne, c'est une manifestation, en gros, qui était objectivement contre l'OAS et pour De Gaulle. Donc il n'y avait aucune raison qu'elle soit réprimée. Elle était autorisée. Et elle allait se disperser. C'était le 13 février 1962, elle allait se disperser quand les policiers ont chargé. Et ça a été une période importante parce que j'ai obtenu des informations par des gens de Bordeaux, on a envoyé quelqu'un, je vous raconterai ça peut-être une autre fois.
On en parlera effectivement dans deux jours, des révélations sur Maurice Papon. Voilà donc les prémices d'une carrière journalistique qui vous emmènera ensuite, Claude Angéli, notamment au Nouvel Observateur et au Canard Enchaîné. Mais de cela, il sera question dans le prochain épisode d'À Voix Nue avec vous, Claude Angéli. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Frédéric Saïs avec Claude Angéli. À Voix Nue, réalisation Laurent Polleret. Prise de son Sandrine Malon, attachée de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À Voix Nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.